Alors, pour ce Radio Barque 3e de février, j'insiste bien là-dessus, Alain Fabre, maire de la commune de Bise-Minervois, j'insiste bien là-dessus sur le fait, justement, que nous, pendant tout ce mois de février, nous avons invité, alors, des élus qui sont souvent maires et qui sont conseillers communautaires, qui le seront très probablement dans quelques semaines, mais surtout qui ont en tête la notion de aglo, de communauté, de Grand Narbonne pour nous, et qui le cultive et surtout qui évite de laisser tout ça un petit peu dans les couloirs et dans la coulisse. Alors merci justement Alain Fabre, vous faites partie de ceux qui acceptent d'en parler. Certains, je le précise aussi, il y a des gens qui candidateront probablement, mais qui jusqu'ici n'ont pas voulu en parler. C'est leur droit, c'est leur stratégie. Vous faites partie de ceux qui, au contraire, cherchent la transparence. Un mot quand même sur votre commune de Bise, et on va revenir ensuite largement sur l'agglo. Alors, votre commune Bise-Minervois, alors elle est dans le Minervois, comme on aurait dit, un territoire dont on sait qu'il est écartelé entre deux départements aujourd'hui, entre l'Aude et l'Hérault. Mais surtout, une des caractéristiques de votre commune, c'est qu'elle est inondable assez souvent. Ce sont les crues de la Cesse. Et ça, pour le maire que vous êtes et que vous souhaitez être de nouveau, j'imagine que c'est un des défis permanents et un des soucis éternels.
Oui. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation et en même temps de dire bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Effectivement, donc, notre commune est souvent inondée et c'est lié au fait que, bon, nous avons un régime torrentiel, un étranglement dans la traversée du village et bon, nous avons le bassin versant qui est essentiellement dans l'Hérault, 255 km² et quand ça arrive de plus en plus fort, mais surtout de plus en plus fréquemment. Voilà, donc c'est dans ce sens d'ailleurs que bon, nous avons en conseil municipal voté une délibération pour rester en justice avec le collectif auquel nous sommes joints, un procès donc en pour dérèglement climatique donc auprès de contre la société Total, parce que nous en avons assez de ces fréquences de plus en plus importantes et du fait que nous élus locaux nous contentons de dire nous traitons. Nous pensons les plaies, nous traitons les conséquences, mais aujourd'hui, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller rechercher les causes, et parce que nous défendons notre position. La position que nous défendons, c'est celle de dire pollueur, payeur.
Oui. Alors justement, bon, on accuse ce fameux réchauffement climatique, donc les pollueurs. Mais alors honnêtement, Alain Fabre, est-ce que vous pensez véritablement que cette action en justice contre un géant comme Total, à part le coup médiatique que ça vous fait, est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose de concret?
Alors, il est certain que ça me rappelle une fable de La Fontaine, hein, le pot de terre contre le pot de fer. Mais si vous voulez, il y a toujours eu des puissants et des misérables. Il y a eu des riches, il y a eu des pauvres. Mais entre-temps, il y a eu quand même la révolution et on est sous un régime républicain aujourd'hui. Et je suis un élu de cette République et j'ai entièrement confiance à la justice de mon pays en tant qu'élu de ce pays. Voilà, dans ce pays. Et aujourd'hui, je ne me pose pas cette question et faut pas croire, ce n'est surtout pas un coup médiatique que nous voulons. Au contraire, c'est un affichage de nos convictions. Et nous sommes heureux aujourd'hui de voir que par exemple, la région Centre-Val-de-Loire vient de nous rejoindre. Tous les écomaires, 2000 communes viennent de nous rejoindre. Et nous représentons aujourd'hui 4 500 000 habitants en France.
Oui, j'allais dire, citez-nous quelques autres communes qui sont marquantes, qui ont peut-être initié ce processus.
Oui, tout à fait. Hein, nous y sommes raccrochés nous-mêmes. Hein,
qui a eu le premier l'idée de lancer ça?
Il y a Bègles, Bayonne, Bordeaux, Grenoble, il y a l'Est parisien, hein, ce qui est une intercommunalité.
Donc il y a un certain nombre de maires qui partagent ce principe et qui ont resté en justice avec vous.
Quoi. Oui, en dehors de toute considération politique, hein, c'est plus réel. Quoi, hein,
voilà, voilà, c'est tout à fait, alors non pas apolitique, mais apartisan, comme dirait Michel. précisons-le, voilà, pluripolitique.
Politique.
Voilà. Alors arrivons, Alain Fabre, à l'agglo. Donc vous faites partie, je le disais, des gens qui se cachent pas qu'éventuellement, après le deuxième tour des municipales, vous pourrez candidater à l'agglo. D'abord, Quand est née cette notion de dire, tiens, ben finalement, pourquoi je candidaterai pas comme d'autres? Parce que d'habitude, on attend plutôt des maires de villes ou de communes plus grandes.
Oui, parce que l'idée est venue tout à fait naturellement, quoi, hein, puisque pendant ce dernier mandat, j'ai quand même exercé les fonctions de président de l'office domicile habitat, hein, d'HLM, quoi. Voilà, pendant 4 ans, et à l'issue de cette fonction, Jacques Bascou m'a demandé d'être conseiller communautaire délégué au commerce, à la réhabilitation des centres anciens, ainsi que au logement. Donc c'est une compétence assez importante. Hein. Et donc je me suis employé à cela. Donc quand je me suis rendu compte que finalement, moi j'étais déjà président de communauté de communes, hein, dans le sud minervois, 2 fois.
Hein, donc, quand est-ce que vous avez rejoint le Grand Narbonne ?
En 2011.
En 2011.
Nous avons rejoint en 2011, mais auparavant, donc en 2008, j'avais été élu président de la communauté de communes du sud minervois.
Oui, donc l'Interco, vous connaissiez
l'Interco,
déjà.
L'Interco, je connais. J'ai été attaché territorial et j'ai dirigé pas mal d'établissements publics de coopération intercommunale. Donc j'ai à moi ancré cet état d'esprit intercommunal, cet état d'esprit communautaire qu'il faut avoir lorsqu'on est un élu communautaire. Donc voilà, tout naturellement, les échéances arrivant, Jacques Bascou ayant annoncé que donc il ne se représenterait pas, voilà, j'ai dit bon, pourquoi pas moi aussi, quoi. Voilà, quoi.
Ouais.
Et j'avais envie, quoi.
Oui. Voilà. Bon, c'est essentiel de le partager. Alors, vous le disiez à l'instant, Alain Fabre, vous avez une expérience, vous êtes occupé de l'habitat social, des HLM notamment. Vous aviez une expérience précédente dans alors ça s'appelait une communauté de communes à l'époque.
C'est ça.
Bon. Et là, vous êtes entré dans le Grand Narbonne, donc, et vous avez vu ce qui s'est passé pendant les 6 dernières années, avec les avantages et les inconvénients. Quelles sont, justement, les leçons que cela vous inspire aujourd'hui ?
Alors, moi, je voudrais dire une chose en préambule à tout ça, hein, parce que j'ai des idées nouvelles, mais je ne veux pas dire que c'est des reproches à ce qui a été fait. Pendant, si vous voulez, plusieurs mandats, il y a eu quand même des intégrations de communes. Donc on est passé d'une communauté de communes, d'agglomération de 18 communes à 37. Donc il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là qui a été parfaitement bien fait, et aussi bien par les services que par les différents élus. Et ça, je tiens à le dire. Nous avons participé également, lors du dernier mandat, à la mise en œuvre, à la rédaction, pardon, d'un projet que nous avons baptisé Grand Narbonne 2030, qui a été fait par les élus eux-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, moi je considère qu'il y a un gros travail qui a été fait, et à partir de là, il y a toute une étape importante qui vient d'être franchie, et qu'il convient aujourd'hui de franchir un palier, si vous voulez, et d'aller plus loin dans la gestion, dans l'organisation, et dans la prise en compte des administrés, des contribuables. Dans ce projet, on a introduit une notion de citoyen communautaire. Ce citoyen communautaire, comme le disait Michel Santo il y a quelque temps, il n'y a qu'un citoyen, c'est vrai. Mais on connaît jusqu'à présent que le citoyen communal.
C'est celui qui, malheureusement, va voter la prochaine fois en ignorant ce qui va se passer ensuite.
Tout à fait. Si ce n'est qu'il y aura de noms fléchés, donc des noms fléchés donc sur le même bulletin de vote que le bulletin de vote municipal.
Oui, mais c'est pas d'une grande clarté pour les électeurs de toute façon.
Ce n'est pas évident, effectivement. Bon, il n'empêche que aujourd'hui, les communes ont transféré un grand nombre de leurs compétences à la communauté d'agglomération et de services par la même. Et nous, les maires, nous sommes confrontés, donc, et continuent, donc, les administrés continuent de venir en mairie. Donc, il est évident que si on a conduit cette notion, c'est parce qu'on a introduit cette notion de citoyen communautaire, c'est que nous voulons dire et donner une tendance, un objectif, c'est de dire aujourd'hui, cette proximité est partie de la commune à la communauté d'agglomération, mais il faut responsabiliser la communauté d'agglomération pour qu'on redonne de la proximité aux citoyens que nous avons encore dans nos communes. Donc c'est, par exemple, ce qu'on a fait déjà dans le logement, c'est que nous avons, avec les services, nous allons dans les villages avec un stand sur les marchés, on annonce, les communes donc annoncent la venue de ce service, et nous recevons avec, au niveau du travail saisonnier, avec les compagnons bâtisseurs, avec la société, là, avec l'association ADIL de défense des administrés, le côté juridique, quoi, surtout le logement. Donc, on fait et on reçoit sur le terrain, donc, les administrés directement. Et ça, c'est bien perçu, et je crois qu'il faut qu'on développe encore plus cette action dans tous les services de l'agglo.
Voilà. Oui, vous allez, si je puis dire, vendre l'agglo, en quelque sorte. C'est... Expliquer ce qu'elle est, ce qu'elle fait.
Et oui, alors, dans un premier temps, vous avez raison, hein, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est de rendre service aux administrés. On va leur dire, vous avez, dans le cadre d'une réhabilitation de maison, vous avez toutes les aides, et on les aide à monter le dossier. Donc, on supprime le parcours de combattant auquel ils étaient soumis aujourd'hui.
Oui, alors ça, c'est une aide.
Et en même temps, effectivement, ça, c'est l'effet secondaire, c'est de dire, voyez, l'agglo est là, c'est pas une institution qui est éloignée de vous, on prend en compte vos problèmes, nous-mêmes également, on y participe, mais on fait ça avec les communes et par les communes. Parce que il faut respecter, la commune est un élément essentiel dans cette organisation.
Oui, et on y revient voilà. Un peu, on a tendance à y revenir un
on
peu
y
sur
revient.
Cette notion.
Une loi qui permet effectivement au maire d'avoir encore plus de pouvoir qu'il n'en avait jusqu'à aujourd'hui dans l'intercommunalité. Jean-Claude, ce qui vaut pour les petites communes vaut aussi pour les grandes villes. Il se trouve que j'habite un quartier.
Rapidement, Michel, une question.
Il y a un gros îlot fait d'HLM géré par l'agglo, et les gens que je rencontre chaque fois me disent mais le maire n'a pas fait ceci, n'a pas fait
oui,
cela.
Voilà,
ils sont encore effectivement dans cette.
Il y a cette méconnaissance.
Le flou est le même. Absolument.
Il faut dépasser ça.
Voilà. Donc c'est cette notion donc de citoyen communautaire que vous êtes en train d'essayer de faire passer à Alain Fabre, et Dieu sait s'il faudra le répéter parce que c'est pas encore inscrit dans les mentalités ni dans les têtes.
Voilà, tout à fait. Voilà. Alors ensuite il y a dans ce sens-là aussi il faut par rapport aux contribuables et aux administrés, je crois qu'il est nécessaire et on a déjà évoqué précédemment, il faut qu'on aille jusqu'au bout pour le futur. C'est le problème de le réaliser un pacte financier. Parce qu'aujourd'hui, le contribuable, qu'il soit à Bise, à Mayac, à Pouzol, ou à Mirepeissette, ou à Le Cat, enfin, sur n'importe quelle commune du territoire. Il paye le même taux de fiscalité additionnelle. Par contre, il y a les services. Au niveau des services, donc, services de l'eau, services d'enlèvement
d'ordures
ménagères, entre autres, les transports, entre autres. Mais là, donc... Oui, ce sont les principaux. Hein. Mmh. Voilà, donc aujourd'hui, et le développement économique. Oui. Alors là, on est. Il faut prendre un petit peu de temps. C'est on a une équité de service. Hein, c'est pas une égalité. C'est-à-dire, on adapte le service. Il faut qu'on soit rationnel dans la dépense et dans les besoins des administrés. Donc là, on a une équité. Mais par contre, je parle par exemple des transports. Mais par contre, donc au niveau de la tarification et notamment par exemple sur les OM,
il y a
une disparité. Et là, je pense qu'il faut qu'on aille vers une égalité de traitement fiscal et du coût des services sur l'ensemble du territoire.
Oui, parce que voilà. Ça crée des dissensions, des jalousies même.
Mais bien sûr, parce que par exemple, je prends la contrepartie de cela, il y a des endroits où c'est effectivement, sur des compétences où il y a effectivement de la solidarité financière, c'est par exemple le développement économique. Le développement économique aujourd'hui, donc, et le Grand Narbonne a très bien fait, a beaucoup investi dans les zones économiques pour créer l'emploi. Aujourd'hui, on sait très bien que lorsqu'on achète du terrain, on le viabilise et on le commercialise, il y a une somme, enfin, je veux dire, il y a un déficit entre le prix de revient de vente du mètre carré de terrain, donc, et de réalisation, de viabilisation du terrain et le prix de vente. Il y a un déficit. Donc, ce déficit, eh bien, il est payé par l'ensemble des administrés, enfin des contribuables, pardon, du territoire communautaire. Et là, il y a la solidarité. Voilà.
Nous, il y a une politique volontariste, comme une commune faisait jadis.
Tout à fait.
Ces questions-là, en fait, des maires sur lesquelles des zones d'activité importantes étaient refusées de verser une part de leur taxe foncière.
Oui. Tout à fait, j'allais venir. C'est que de l'autre côté, on mutualise les dépenses, et c'est normal, on est sur le territoire, mais au niveau des recettes, ce sont quand même ces communes-là qui les perçoivent à la place de l'agglomération. Voilà, donc voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses, ce sont des leviers qu'il faut qu'on actionne et qui sont nécessaires dans l'avenir. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on se retrouve tous.
Voilà, donc il y a un vaste chantier, c'est pour ça que cela vous intéresse. Alors, Alain Fabre, je reprends par exemple, je vais vous demander votre avis sur un certain nombre de propositions qui ont été faites par quelqu'un d'autre qui s'intéresse à l'agglo, c'est Bertrand Malquier, que nous avons eu à ce micro il n'y a pas très longtemps, et qui propose, alors, à la lumière de ce qui s'est passé pendant les 6 dernières années, où il n'y avait pas de vice-président de la ville-centre, ce qui a créé des bisbilles sur lesquelles je ne reviens pas, et il proposait, lui, une sorte de pacte de répartition des vice-présidents, d'abord les limiter à 12, et puis les trois tiers, un tiers, je crois, ville-centre, un tiers littoral et un tiers la ruralité. Est-ce que vous, qui êtes dans, entre guillemets, la ruralité, ça vous paraît équitable, ça ?
Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, par essence, l'intercommunalité, c'est d'abord la recherche, effectivement, la recherche du consensus. Le débat politique, il se passe au moment des élections. Une fois les élections faites, moi je suis pour qu'on travaille sur la politique d'aménagement du territoire, sur le projet. Donc, et pour cela, il faut effectivement que ce soit l'ensemble du territoire qui soit concerné. Donc, aujourd'hui,
il faut qu'il y ait un sentiment d'équité.
Il faut un sentiment d'équité et d'égalité, comme je dis, mais au niveau financier. Équité de service, égalité fiscale. Alors, aujourd'hui, il faut un petit rappel quand même. Il y a 56 000 habitants sur le Grand Narbonne. Il y en a 74 000, donc en dehors de la commune de Narbonne. Mais c'est pas de dire on dresse les uns contre les autres. C'est les uns avec les autres et nous sommes condamnés à vivre ensemble.
Oui,
mais chaque partie du territoire a besoin de l'un et de l'autre.
Oui, mais c'est le principe. C'est la théorie. Ça marche pas toujours comme ça.
Non, mais c'est justement, ça marche pas comme ça. Mais sur ce, sur quoi il faut aller. Et là, bon, je rejoins effectivement Bertrand Malquier. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les territoires en considération dans la recherche d'un consensus. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'avance des choses et des propositions, et il y en a bien d'autres sur lesquelles il faut qu'on discute, si vous voulez, pour arriver donc à ce consensus. Alors, le nombre de personnes, tout ça doit faire parler, et de représentants, pardon, par territoire, ça doit faire partir, pardon, des discussions que nous devons avoir. Aujourd'hui, on est dans un premier temps d'élection municipale. Il faut le laisser passer. Mais déjà, qu'il y ait des gens qui, effectivement, prennent position et avancent les choses. Donc c'est quelque chose. Et c'est, moi, je pense qu'à l'issue de des élections municipales, il conviendra qu'il y ait un débat sain, une réunion, que des gens qui, comme moi, s'avancent, et c'est très heureux. Il faudra qu'on se mette autour de table, y compris avec tous les élus de ce territoire, mais qu'on parle réellement de pouvoir, comment on peut arriver à mettre en place un exécutif qui représente l'ensemble des composantes de ce territoire. Alors, bon, 3, 4, 5, en fait, les chiffres doivent être discutés ensemble, mais c'est bien qu'il y ait des propositions qui soient faites dans ce sens-là, et j'y adhère. Quoi.
Oui, voilà. Et d'ailleurs, il y aura cette fois-ci un mois pour discuter. Oui. La dernière fois, l'élection du président avait été beaucoup plus rapide. Cette fois-ci, c'est prévu que ça dure un mois, les préparatifs. Bon, et vous avez raison, il faut attendre les résultats, bien entendu, des municipales pour décider de la suite. Mais, encore une fois, il faut en parler avant. Et par exemple, quelqu'un qui habite va décider s'il vote pour Alain Fabre au municipal. Sache que Alain Fabre, il veut être maire de Bise-Minervois, mais il veut en même temps jouer un rôle important, jouer un rôle important dans la Glaude. Donc c'est ça ce qu'on reproche à ces élections, on n'en parle pas assez.
Jean-Claude, de jeter dans le débat, en fait, à partir du moment où on se positionne comme un candidat, en fait, à la présidence, de jeter dans le débat les grandes lignes, effectivement, de son cahier des charges, si je puis dire.
Voilà,
bon, par exemple, dire comme vient de le faire, comme l'a fait précédemment Bertrand Malquier, il faut qu'il y ait un exécutif qui marche, en fait, qui soit équitable, en fait, entre les différentes parties. Ça pose effectivement le problème, et ça écarte effectivement ce qui a été fait précédemment.
C'est déjà un progrès. Et on va conclure là-dessus, parce qu'il faut conclure. Donc, vous avez expliqué sur le processus, Alain Fabre, ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez un ou deux grands objectifs? On dit qu'il faut faire rêver les électeurs. Attention, peut-être oui, peut-être pas trop. Mais est-ce que vous vous dites... vous parlez de la vision de l'agglo de Grand Narbonne 2030. Est-ce que vous avez un grand projet qui vous tient à cœur et pour lequel vous vous battrez.
Alors sur le contenu, il y a déjà le projet 2030, quoi, hein, mais que nous avons, je rappelle que ça, il a été voté à l'unanimité.
Oui, oui.
Hein, donc ça, c'est quelque chose de fort. Moi, je suis plutôt sur le fond, il y a des idées qu'on peut lancer, c'est de dire demain, aujourd'hui on met des sommes considérables sur le développement économique. Je pense que ce serait une erreur de ne pas penser à se rapprocher, par exemple, des territoires voisins,
comme Lézignan par exemple,
et de dire bon, n'y a-t-il pas là des économies substantielles à faire, de se rapprocher avec eux, d'être dans un aménagement de territoire, par exemple. Voilà, moi je vois ça. Le cœur de Languedoc qu'a lancé aussi, auquel participe Jacques Bascou, avec le Biterrois, le Lézignanais, quoi. Et je crois qu'il faut qu'on aille aussi dans ce sens, parce qu'il y a, je suis persuadé, des économies, des axes qu'il faudrait définir et porter, faire aboutir. On le fait déjà avec Lézignan, quoi, sur les fonds européens en faveur de la viticulture. Magali Vergne s'occupe de ça. Donc ça marche très bien. Je crois qu'il y a des pistes à approfondir, moi, de dire oui, le territoire du Grand Narbonne ne s'arrête pas. Je veux dire, on peut parler de l'ancienne circonscription, enfin de la circonscription.
Du député de jadis.
Du député de jadis, quoi. Hein, oui. Voilà, qui avait une réelle identité. Moi, tout ça pour dire que... Moi, je saute pas spécialement dans le fauteuil de bureau de président. Moi, je suis là. Ma candidature aujourd'hui et le fait de dire « je m'y intéresse », c'est pour faire bouger les lignes. Et c'est d'arriver avec un grand nombre de propositions à mettre sur la table pour que nous puissions en discuter très clairement. Et le fait que Jacques Bascou ait décalé de moi, je crois, si vous voulez,
l'élection,
ça donne du champ, ça donne de l'espace pour que ces choses-là se passent en toute transparence et que demain, on puisse trouver un consensus.
Voilà. Écoutez, merci Alain Fabre. On se retrouvera probablement donc après ces élections pour vous entendre sur toutes ces discussions que vous avez évoquées. Le prochain candidat, on terminera février là-dessus, ça sera quelqu'un au profil peut-être un peu semblable, Guillaume Heras, qui est également maire d'une petite commune qui lui aussi a joué un rôle dans l'agglo et s'y intéresse. Et puis après, on passera sur des thèmes un petit peu différents au moment où on va arriver dans le vif du sujet de l'élection municipale. Merci en tout cas d'être venu nous évoquer cette possible candidature avec franchise, Alain Fabre, et aux auditeurs, à la semaine prochaine.
Merci.